Le journal était présenté par Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources, les coulisses de l'information après nos deux matinales exceptionnelles en direct de Gaza et de Jérusalem lundi et mardi dernier, que vous pouvez réécouter bien sûr et podcaster sur franceculture.fr. Nous allons nous intéresser ce matin au traitement médiatique de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Comment travaillent les journalistes pour rendre compte de ce conflit? Un conflit très sensible qui peut déchaîner les passions, un mot de travers ou maladroit dans un contexte où les acteurs sur le terrain, mais aussi à des milliers de kilomètres, les auditeurs, les internautes, les militants des deux bords ont les nerfs à fleur de peau. Eh bien, un mot maladroit peut avoir des conséquences graves, on en parlera. Avec nous en studio, Hélène Salon, grand reporter au journal Le Monde, bonjour.
Bonjour.
Ludovic Piétenu, grand reporter chez nous à France Culture, bonjour Ludovic.
Bonjour à tous.
Et au téléphone de Washington, Guillaume Oda, d'ITélé, et également correspondant à Jérusalem. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous avez tous les trois couvert cette guerre qui a duré 50 jours. Avec nous également Arnaud Klarsfeld, avocat et membre actif de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Bonjour Arnaud Klarsfeld.
Bonjour.
Et au téléphone, Taoufik Tahani, président de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour Monsieur Tahani.
Bonjour.
Alors tous les deux, vous nous donnerez votre sentiment sur la façon dont la presse, chez nous, ici à France Culture, mais aussi au Monde ou à la télévision, comment la presse a parlé de cette guerre. Un plateau riche avec nos deux regards extérieurs, l'homme de l'image et du multimédia, le tout nouveau dans l'équipe, Thibaut Henton. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Et puis une voix familière de l'émission, Isabelle Véramasson. Bonjour.
Bonjour.
Directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Et en toute fin d'émission, nous retrouverons Cyril Sauvageau, le correspondant de Radio France à Berlin, pour un nouveau rendez-vous sur ce qui a fait l'actualité de la semaine à l'étranger, cette semaine bien sûr en Allemagne. Et puis bien sûr le clin d'œil de Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy et Vincent Abouchard, avec aux manettes Jacques Hubert. On attend vos commentaires et vos réactions sur notre site franceculture.fr. Bienvenue dans le secret des sources.
L'actualité à l'étranger à présent avec la vaste offensive militaire d'Israël contre les islamistes du Hamas. Les raids aériens se succèdent depuis 24 heures dans la bande de Gaza. Ils ont fait au moins une quinzaine de morts et une centaine de blessés côté palestinien. Israël répond aux tirs de roquettes lancés hier par le Hamas en direction des villes du sud d'Israël. Et c'est là que nous retrouvons nos correspondants Patrick Fondiot et Dany Tsion.
Au loin, dans le ciel de Gaza, soudain, une colonne de fumée noire. Puis plusieurs autres volutes au-dessus des cibles frappées par Israël. Vue imprenable depuis la ville frontalière de Sderot à 3 km du territoire palestinien. Et comme au spectacle, une dizaine d'Israéliens tels celui-ci venus observer le lancement de la nouvelle opération militaire de leur armée.
Je ne pense pas que notre armée devrait entrer à Gaza, ce serait risquer trop de vies. Et en plus, ça n'arrêtera pas leurs roquettes. Nous les avons déjà envahis plusieurs fois, mais cette fois-ci, nous devons juste continuer ces raids aériens.
Des raids intensifs depuis hier soir, visant d'après ces images de l'armée, des caches de chefs militaires du Hamas ou encore des sites de lancement de roquettes. Ici à Gaza, depuis 24 heures, plus de 150 roquettes comme celle-là tirées vers Israël.
Voilà, c'est un extrait du journal de 20h de TF1, 24 heures après le début de l'opération militaire israélienne Bordure Protectrice. Alors le récit est très fort et on va bien sûr parler de cette guerre des images. Mais pour bien comprendre où nous sommes et de quoi on parle de Gaza et c'est une bande de sable en bordure de Méditerranée, 40 km de long, à peu près sur une dizaine de large, 1 800 000 habitants à l'intérieur, un territoire au sud-ouest d'Israël avec une frontière aussi sur le Sinaï égyptien. Alors je me tourne vers vous, Hélène Salon, Ludovic Piétenu et Guillaume Auda, puisque nous avons la chance d'avoir trois grands reporters avec nous. Avant d'arriver sur place, et on va décrire les coulisses de ce reportage dans cet endroit bien particulier, il y a une étape obligatoire, les accréditations des deux côtés, Israël et le Hamas à Gaza. Alors Hélène Salon, c'est juste une formalité des accréditations ou c'est compliqué à obtenir pour pouvoir travailler ?
Non, ça a été une formalité. Ça prend une journée ou deux côté israélien. Il faut remplir le dossier. Le dossier est accepté. On reçoit notre carte le lendemain. Et côté palestinien, côté Gaza, on passe le point de passage et on est en fait sous la tutelle d'un fixeur qui s'enregistre à notre nom et qui va nous suivre pendant tout le voyage normalement.
Et qui prévient le Hamas de votre arrivée à Guy
qui
Document.
S'enregistre ouais. Voilà, pour nous auprès du Hamas et qui payera un droit voilà, de travailler.
Ludovic Piétenu, il y a un document sur la censure à signer côté israélien. Comment ça se passe? De quoi s'agit-il?
On paye une dizaine d'euros pour obtenir cette carte de presse israélienne. Et il y a effectivement un censorship form à remplir, un document qui autorise Israël à accéder à nos données, à nos informations, à l'intérieur de nos ordinateurs portables. Et pour cette guerre, il y a un document supplémentaire que certains journalistes ont été amenés à signer à RS, qui a d'ailleurs suscité l'indignation de Reporters sans frontières, un document qui demandait aux journalistes de ne pas poursuivre l'État d'Israël en cas de décès ou d'accident, de blessure à l'intérieur du territoire de Gaza.
Et là, c'est un document tout nouveau ?
Tout nouveau, uniquement pour cette guerre, qui a été présenté aux journalistes à l'entrée à RS à partir de l'offensive terrestre.
Guillaume Auda, vous êtes un habitué hein, de Gaza, vous êtes correspondant sur place, dit télévision. C'est toujours un peu long, Hélène nous disait deux jours là, pendant la guerre pour obtenir les documents. Vous avez une carte de presse annuelle ?
Oui, on a, quand on est correspondant, j'ai été correspondant effectivement entre 2005 et 2009, une carte de correspondant de journalistes étrangers sur place. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a une différence notable hein, dans la stratégie qui a été celle d'Israël à l'égard de la couverture de cette guerre. Je me souviens, comme vous d'ailleurs, qu'en 2009, au moment de l'opération Plomb durci, les Israéliens avaient refusé que les journalistes étrangers n'entrent à l'intérieur de la bande de Gaza pour couvrir le cours de cette guerre, ce qui a été totalement différent cette année, en 2014, puisque les Israéliens ont permis aux journalistes étrangers d'entrer. Et pourtant, on pouvait imaginer que la communication allait être défavorable hein, à leur endroit, qui se tirait un peu une balle dans le pied, dans la mesure où les images qui sortent, et quand elles sont le fait de reportages de journalistes étrangers, sont souvent des images de bombardements terribles, de victimes civiles, parce que c'est l'essentiel hein, des victimes de ce conflit. Pourtant, c'est un choix qui a été fait par les Israéliens de laisser entrer les journalistes étrangers, ce qui n'avait pas été le cas en 2009, alors que les Israéliens, on s'en souvient, étaient entrés également par la voie terrestre dans la bande de Gaza.
Oui, la bande de Gaza était interdite, la guerre était à huis clos, pas tout à fait, parce qu'il y avait des caméras palestiniennes qui envoyaient les images et qui informaient sur ce qui se passait dans la bande de Gaza. Mais effectivement, les journalistes étrangers n'ont pas pu entrer à Gaza à ce moment-là, en 2008-2009. Alors, une fois qu'on a tous les documents et qu'on peut se rendre à Gaza, il faut quand même bien préciser que Gaza est un territoire cadenassé, hein, verrouillé à la fois par Israël, mais aussi, il faut le dire, par l'Égypte. Il faut bien comprendre que personne n'entre à Gaza, à part les journalistes, les diplomates et les humanitaires. Très peu de Palestiniens peuvent en sortir. Israël délivre quelques laissez-passer pour se rendre en Cisjordanie, mais c'est vraiment marginal. Alors, cette précision apportée pour les auditeurs, vous arrivez à Erez, Hélène, Guillaume, Ludovic. Erez, c'est quoi? On entend beaucoup ce mot. C'est quoi, Erez? Ludovic.
Point de passage au nord de la bande de Gaza avec Israël, un terminal avec
une frontière,
voilà, ça ressemble exactement à un terminal d'aéroport, je sais pas, avec des guérites, avec des officiers de douane qui vous tamponnent votre passeport. Et c'est sûr que après, vous rentrez dans un couloir, dans un tunnel grillagé. Et vous rentrez dans ce tunnel alors que les roquettes pleuvent.
C'est ça, c'est pas toujours très rassurant. C'est un long tunnel entre Israël et les premiers...
Qui doit bien faire un bon kilomètre.
Ouais. Ouais, un premier kilomètre, ouais. Dans un no man's land avant d'arriver...
Total.
C'est un couloir grillagé plutôt.
Ouais. Couloir grillagé, ouais. C'est ça.
Ouais, un couloir grillagé.
Avec les roquettes qui pleuvent ou les chars en opération.
Pas très rassurant.
À côté, ouais, non, pas très rassurant.
Et au bout de ce couloir grillagé.
Des murs grillagés. En béton qui sont tombés, parce que ouais. Le terminal des RS a souvent été visé par les roquettes du Hamas. Donc il y a quand même des énormes murs en béton, comme ceux qu'on peut trouver entre, au niveau de la Cisjordanie, quoi, du mur de séparation. Ouais, c'est pas très rassurant, effectivement. On arrive en plus après au niveau de la guérite du Hamas côté Gaza. Cette guérite du Hamas a très rapidement été visée, détruite.
Oui, il y avait des immeubles détruits autour. Voilà. Oui.
Donc on arrive tout de suite dans cette ambiance de guerre. On est tout de suite immergé.
Et au bout, donc le fixeur vous attend, ce que nous disiez Hélène Salon. Mm. Et le Hamas,
nous enregistre,
quand il est là, vous enregistre. Voilà. On est donc arrivé à Gaza et qu'est-ce qu'on découvre là? Qu'est-ce que l'on voit le, je sais pas, vous étiez le 14 juillet, le 15 juillet, Ludovic?
Oui, J3 de l'opération, le jeudi. Plus,
oui, le jeudi, ouais.
Les premières images, c'est ce bruit de la guerre, c'est un bruit que moi personnellement je connaissais pas, parce que c'est mon premier terrain de guerre. C'est le 14 juillet. Ça en blessera certains, mais ça ressemble. Voilà, on était à cette époque-là en plus ici au niveau de la fête nationale en France. Enfin, non, mais c'est un feu d'artifice constant au sens militaire du terme. Ça ne s'arrête jamais. Plus le bruit des drones, ce buzz, ce bourdonnement constant, ce sentiment d'être observé, nous aussi journalistes en permanence.
À Gaza, la journée a été marquée par la mort de 4 enfants palestiniens. Ils ont été victimes d'un nouveau raid d'Israël. Liseron Boudoul, Philippe Véran et Guillaume Aguerre se trouvaient juste à côté de l'endroit où les obus sont tombés. Ils se sont rendus immédiatement sur place. Attention, les images peuvent choquer.
Tout a commencé par une bombe qui tombe sur le port devant nous. Que vise-t-elle? Difficile à dire. Nous repérons ensuite au large un navire israélien, puis un autre. Il semble s'approcher de la côte. Sous une chaleur écrasante, un groupe d'enfants joue sur la digue quand soudain, un obus tiré depuis un navire touche une cabane de pêcheurs. Les enfants effrayés courent vers la plage. C'est alors qu'un second obus les atteint. 4 enfants sont tués sur le coup. Plusieurs sont blessés. Nous tournons l'arrivée des secours, les petits corps sur les brancards et sur le sable. Et les cris d'une mère choquée qui cherche son enfant.
Voilà un reportage diffusé sur TF1. Autre extrait d'un reportage diffusé par France 2 de Marc de Chalvron. Et là, nous sommes à Tel Aviv.
Tel Aviv, l'insouciante, la trépidante. Ville à part, surnommée la bulle en Israël. Tant le conflit avec les Palestiniens ne semble pas l'atteindre. Seulement voilà, depuis 3 jours, la capitale économique du pays connaît une réalité nouvelle. Plusieurs fois par jour et ce matin encore, la sirène retentit. Tout le monde court aux abris, Tel Aviv découvre la menace des roquettes palestiniennes.
On ne peut pas vivre comme ça. Maintenant, c'est les grandes vacances de l'été et c'est très difficile de vivre comme ça et ce n'est pas juste.
Pour autant, Tel Aviv continue de vivre. Ses plages toujours bien remplies de touristes, certes perturbées de temps à autre, par le bruit sourd d'une explosion, tout le monde se met à courir. Des roquettes palestiniennes viennent d'être interceptées par le système de défense israélien. Pas de panique pour autant.
Non, je n'ai pas peur d'être ici. D'ailleurs, je n'ai pas réservé de vol sur le prochain avion. On est ici, et que voulez-vous de plus? On est sur la plage de Tel Aviv.
De fait, depuis le début de la crise, Tel Aviv n'a pas connu de dégâts importants. Et sur le marché de la ville...
Voilà, 2 reportages, l'un à Gaza, l'autre à Tel Aviv. Guillaume Audat, c'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est très très mauvais ces images pour Israël. Là, on a l'impression, vous nous disiez qu'Israël va se tirer une balle dans le pied en laissant entrer les journalistes et en filmant un épisode dramatique de cette guerre que tout le monde a en tête. La mort des 3 enfants ou 4 enfants de la famille Baker sur la plage de Gaza.
Oui, on a vu le sentiment à ce moment-là qu'il allait s'agir d'un tournant dans cette guerre parce que cet événement, la mort de ces 4 enfants, il s'est vraiment déroulé au pied des hôtels dans lesquels résident et séjournent les journalistes. Hein, j'étais présent sur les lieux, j'ai été le témoin de ces frappes et on l'a d'ailleurs également documenté pour iTélé. Et on s'est dit à ce moment-là que véritablement personne n'était à l'abri nulle part et que quand les Israéliens, ce qu'on rapportait de toute façon, allons longueur de duplex et de reportage, nous disent via leur communication que les frappes sont chirurgicales, qu'elles visent des installations du Hamas, et qu'en réalité on est témoin de la mort sous nos yeux de quatre enfants qui a priori sont vus et perçus comme tels par les drones dont parlait Ludovic ou par les avions ou en tout cas par le renseignement israélien. On se dit qu'il y a effectivement quelque chose qui cloche, et ce qui offre évidemment un contraste saisissant entre la réalité d'une ville comme Tel Aviv qui a été visée hein, cette fois-ci et c'est nouveau par les roquettes du Hamas, et la réalité à Gaza qui est une réalité de destruction. Alors oui, Israël effectivement peut se tirer une balle dans le pied parce que la communication israélienne, elle sait pertinemment que c'est précisément ce genre d'image qui sortira à un moment donné, mais en même temps elle permet aux journalistes d'entrer occidentaux parce qu'elle va chercher également à valider ses arguments. Le Hamas tire ses roquettes non loin d'installations de l'UNRWA, d'écoles de l'ONU, de bâtiments de l'ONU, et ça a été vu et montré un peu plus tard dans ce conflit. Donc,
on voilà va y revenir tout à l'heure, oui, Guillaume, sur cet épisode-là.
Dans cette communication.
Je note quand même que, Arnaud, je vais donner la parole d'abord à Hélène Salon, parce que votre consoeur Hélène Prudent, qui est à Gaza, là, hein, à ce moment-là, reste très prudente. Et elle dit que les enfants qui ont été touchés semblent avoir été touchés par un obus tiré d'un navire israélien. Comment on rend compte d'une information comme ça, où on voit ce qui se passe sur la plage à Gaza, ce qui se passe sur la plage de Tel Aviv, qui sont distantes de 70 km, mais pas dans le même pays, bien sûr. Comment on traite une information comme celle-là? On se cantonne à un parallélisme scrupuleux, c'est une expression de Benjamin Barthes, notre confrère du Monde qui est actuellement au Liban, où vraiment il faut constater que il y a deux poids deux mesures, c'est pas la même chose, les deux plages.
Les deux plages de Tel Aviv et de Gaza, non, c'est vraiment pas la même chose. Après, moi, je voulais pas mettre les deux informations dans un même article, par exemple, parce que c'est très dur, en fait, de mettre les enfants du beach camp et les évacuations de plages à Tel Aviv avec les alertes.
Où c'est très terrorisant, même l'alerte Tseva Adom,
oui,
l'alerte,
voilà,
il y a une minute pour se cacher, c'est quand même assez
contexte,
très terrorisant.
Contexte en Israël où on sent que les gens ressentent une grande angoisse qui est vécue différemment. Alors on a des témoignages de personnes qui le vivent très bien, qui sont persuadées que les interceptions les protègent, en fait le dôme de fer les protège, donc qui n'ont pas de grande inquiétude. Mais à côté de ça, on a des familles qui sont très inquiètes, notamment ceux qui ont des enfants qui doivent prendre des mesures de sécurité. On voyait aussi sur la plage les cours pour les enfants. Il fallait évacuer tout le monde. Donc oui, il y a quand même une grande angoisse dont il faut rendre compte.
Arnaud Clercel, vous vouliez intervenir?
Oui, vous parliez de parallélisme scrupuleux. Ma mère était sous les bombes en 1943 ou 44 à Berlin. Des milliers d'enfants allemands sont morts, des dizaines de milliers d'enfants allemands sont morts. S'il y avait eu un parallélisme scrupuleux, c'est-à-dire en montrant les images de New York, où les gens étaient heureux dans la rue, et les images de Berlin, quasi détruites, ou les images de Dresde à 95% détruites, bon, la sympathie du monde aurait été du côté de l'Allemagne. C'était les enfants allemands qui mouraient. Donc ce que je regrette, vous m'avez demandé ce que je regrettais dans le conflit, c'est, disons, l'absence de perspective historique. Par exemple, on n'a pas dit, même ici, que Gaza, jusqu'en 67, était égyptien, hein, donc n'était pas israélien. On n'a pas dit que depuis 2005, depuis que Israël a évacué Gaza, une dizaine de milliers d'obus ont été tirés vers Israël, plus pendant la guerre, une dizaine de milliers. Ça fait quand même beaucoup. Ce que je regrette aussi, ça c'est, disons,
mais
la
vous
perspective.
Le dites,
non, mais je le dis.
Vous avez l'occasion de le dire.
Et du point de vue des images, j'ai pas vu pendant toute la guerre de combattants. J'ai pas vu de combattants. C'est normal, je sais comment ça se passe. J'ai été dans l'armée israélienne, j'ai été à Gaza.
Justement, vous allez nous expliquer.
J'ai vu comment le Hamas pouvait traiter les faibles, comment il castrait les homosexuels, comment les prostituées étaient éventrées. J'ai vu les corps. Donc le Hamas fait pression aussi sur les journalistes. Donc c'est normal que les journalistes ne veuillent pas montrer les images, parce qu'ils savent que s'ils montrent les images, il leur arrivera des problèmes. Mais c'est dans ces conditions à la responsabilité de la chaîne mère. Je parle ici pour les images, pas pour la presse écrite. Mais c'est la responsabilité de la chaîne mère de dire, écoutez, nous avons des pressions, nous ne pouvons pas montrer les images des combattants du Hamas. On a vu que des civils. Pourtant, il y a des combattants. Et on ne peut pas montrer les tirs de roquettes. On n'a pas le droit de montrer les tirs de roquettes. Et les journalistes
justement, on va y revenir
font
un peu
ce
plus
qu'ils
tard.
Peuvent dans les circonstances. Mais les chaînes mères ont la responsabilité, avaient la responsabilité historique de dire de telles choses pour informer le spectateur.
On va revenir sur la façon dont on peut travailler à Gaza. Avec nous, donc, Thibaut Henton, l'homme des images sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a un cliché qui ressort du flot d'images que l'on nous a proposé,
Thibaut ? Je pourrais vous en citer tellement, pas toujours facile à sourcer d'ailleurs, des images dont on réalise parfois en fouillant un peu dans les métadonnées qu'elles datent en fait du dernier conflit, ou même qu'elles ont été prises ailleurs sur d'autres théâtres de guerre. Je pourrais vous parler des images diffusées par la télévision israélienne, funérailles en grande pompe de soldats tombés au front, et de celles qu'on n'y voit pas, cortèges funèbres d'enfants palestiniens dans leur blanc linceul. Je pourrais vous parler de ce cliché dont on parlait au début de l'émission dans l'extrait sur une colline de Sderot, depuis laquelle des Israéliens assistent comme au spectacle aux raids aériens sur Gaza toute proche, ou encore de ces portraits de Gazaouis affichant leur sérénité au milieu des ruines, sur un canapé dans un immeuble défoncé, assis dans la rue, dans l'attente d'un bus qui ne viendra jamais, car il est déjà là. Calciné, je pense enfin à ces photos de missiles prises juste avant l'impact, suspendues en l'air. Et puis, je tombe sur une application basée sur Google Maps avec une dizaine de clichés à 360 degrés pris en divers lieux de la bande de Gaza. On clique sur un endroit de la carte et hop, on est transporté de Beit Hanoun à l'hôpital Shifa en passant par un bunker du Hamas ou ce qu'il en reste. On zoome dans l'image, on fait un tour sur soi, dans la peau du photographe, prenant la mesure de la scène, jugeant l'ampleur des dégâts, du nombre de journalistes présents sur place aussi. Et on peut aller comme ça dans une dizaine de lieux, du nord au sud, jusqu'au poste frontière de Rafah, avec à chaque fois des explications sur la scène. Tous ces clichés sont signés Lewis Wilde, photographe pour le journal britannique The Telegraph. Et j'en parle d'autant plus volontiers que la technologie qui sous-tend cette présentation immersive est le fait d'une boîte française basée en Savoie qui s'appelle Color. La compilation de Lewis Wilde, quant à elle, s'intitule tout simplement The Gaza War Map, la carte de la guerre de Gaza.
Alors Taoufik Tahani, président de l'association France-Palestine Solidarité. Donc on a entendu Arnaud Clarcel. J'aimerais bien avoir votre avis sur la façon dont le conflit a été couvert par les médias. Quel est votre sentiment ? Vous avez le sentiment d'avoir été informé de manière objective durant ce conflit ?
Non, je ne pense pas. Mais juste avant, une petite remarque.
Allez-y.
Arnaud Clarcel qui a dit qu'il a servi dans l'armée israélienne. Il faut d'abord qu'il réponde un petit peu de ceci, parce que bon, nous savons qu'il y a beaucoup de Français qui servent dans l'armée israélienne, et d'ailleurs, donc c'est un des sujets qui a été un petit peu éludé par les médias. On a beaucoup parlé des djihadistes qui vont combattre en Syrie. Maintenant, il faut absolument qu'on parle de ces Français qui vont combattre au sein de l'armée israélienne.
Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre sur le même plan Taoufik Tahani.
De toute façon, c'est combattre dans une armée étrangère. Sur la question des... De toute façon, il y a des journalistes qui ont vraiment fait leur travail. Ils ont montré les images qu'il fallait montrer. Mais le traitement, globalement, des grands médias, je crois qu'il n'a pas été au niveau de ce qui s'est, passé. D'abord, sur la question de la chronologie des faits, si vous voulez, ça dépend où on met le curseur. Donc, souvent, malheureusement, on commence par... les roquettes du Hamas, et puis la riposte israélienne. Et puis déjà traiter le conflit entre Israël et le Hamas. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste et tout, etc. Donc de toute façon, on n'a pas le droit de la soutenir. Et puis de l'autre côté, c'est un État constitué avec une population, une économie, etc. etc. Donc déjà, ça, le départ, il est mauvais. Mais où on place le curseur ? Est-ce qu'on le place en 67, en 1948, ou bien... plutôt juste avant le jour de l'enlèvement des trois colons israéliens, ou bien pendant les 9 mois de négociations. Pendant toute cette période, il y avait une agression continuelle de l'armée israélienne contre la population palestinienne de Gaza et contre la population palestinienne de Cisjordanie. Et donc la façon de présenter les choses, déjà en parlant de conflit, c'est déjà un petit peu abusif. Il y a une une armée, c'est la cinquième puissance du monde, et de l'autre côté, une population démunie où il n'a même pas de refuge. Quoi. Quand il y a des bombardements, elle ne sait même pas où se réfugier, ou bien quand elle va dans les écoles de l'UNRWA, ou bien dans des mosquées, ou autre lieu comme ça, elle est bombardée. Et puis, juste un petit mot sur la question de la symétrie. J'ai été frappé par la façon dont les grands médias, ils voulaient absolument affirmer une égalité, une symétrie dans dans ce qui s'est passé. Ça peut être interprété comme un souhait de neutralité, mais la question de neutralité, elle est fausse ici, parce que où se sont passés ces crimes, et c'est sur le territoire palestinien. Et puis, il suffit de voir un peu le nombre de Palestiniens tués.
Plus de 2000 d'un côté, une 70 et quelques civils. Mais les roquettes tirées étaient quand même visées des villes et avaient pour but de frapper des civils israéliens. Taoufik Tahani.
Absolument. Mais si vous voulez, quand il y a une population qui est encerclée, qui subit un blocus depuis 7 ans, qui, après 2008-2009, elle croyait qu'elle allait pouvoir bénéficier d'une certaine liberté, mais qu'elle ne l'a jamais eue. Après les multiples entraves de la part d'Israël, ça crée des frustrations.
Voilà, et ça sera l'objet des discussions. Taoufik Tahani, ça sera l'objet des discussions si elle s'ouvre et d'ici la fin du mois, comme prévu dans l'accord de cessez-le-feu. Très rapidement, Arnaud Klarsfeld.
Parce que M. Tahani a fait, disons, un parallélisme entre l'armée israélienne et les djihadistes qui partent combattre en Syrie. Bon, je vais vous dire, quelle est ma différence. J'étais israélien, je me suis engagé dans l'armée israélienne, non pas pour préserver l'occupation, mais pour combattre l'islamisme radical, que je considère comme un danger pour les démocraties. Israël est un pays démocratique qui a des valeurs occidentales, un pays allié de la France. Je ne crois pas que les djihad, même si dans les manifestations pro-Gaza, on a vu les drapeaux de l'État islamique défiler dans Paris, je ne crois pas que les djihadistes soient des alliés de la France. Donc j'ai servi ce que j'estime être les valeurs occidentales et les valeurs de la démocratie en combattant, dans une unité combattante, l'islamisme radical.
Quel traitement médiatique, pas politique, de la guerre à Gaza, avec nos invités Hélène Salon du Monde, Guillaume Audin, Ludovic Piétenu de France Culture, Guillaume Audin d'Itélé, Arnaud Klarsfeld, Taoufik Tahani. Vos commentaires sont les bienvenus sur notre site. Vous pouvez réécouter, télécharger l'émission sur franceculture.fr. Voilà, Mohamed Assaf, né à Gaza et star dans les territoires palestiniens et dans le monde arabe, Mohamed Assaf a remporté la seconde édition d'Arab Idol. Quel traitement médiatique de la guerre à Gaza dans le secret des sources sur France Culture. On va parler maintenant des conditions de travail à Gaza avec l'armée israélienne. Comment on s'informe? Quels sont les contacts entre les journalistes et les porte-parole de l'armée du Hamas? On va écouter un extrait d'un reportage diffusé sur France 24 en anglais.
And so food insecurity is growing in the Palestinian enclave. 80% of Gaza. Hello?
Gallagher, okay. Are you all right?
Yeah, can you hear me?
Yeah, what happened? The camera. What happened?
Yeah, I'm fine. This was a rocket. Rockets were just shot right next to where we're standing. So I'm not going to sit here standing here very long because there usually is a strike.
You go, Gallagher.
Voilà, le reporter Gallagher Fenwick, correspondant de France 24 à Jérusalem, explique que c'est une roquette qui a été tirée juste à côté de lui. Nous n'allons pas rester très longtemps, dit-il, car il y a généralement une riposte. Très peu de temps après, je vais me mettre à l'abri, dit Gallagher. Alors, le lendemain, Gallagher Fenwick apporte des précisions et explique que c'est un cas manifeste de tirs de roquettes depuis des zones civiles. Autre extrait de notre matinale à Jérusalem mardi dernier. Vous allez entendre Emmanuel Halperin, journaliste vedette de la télé israélienne, et puis notre correspondant à Jérusalem, Sébastien Logeni.
Aucun journaliste pendant ces 50 jours à Gaza n'est arrivé à filmer ou interviewer un combattant du Hamas. Ils n'étaient pas là, on ne les voyait pas. La presse internationale n'a vu que des morts et des blessés.
Ludovic Pétenu ou Sébastien, un mot.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça a été compliqué, notamment de filmer des sites de lancement de roquettes.
Ah bah oui, c'est pas
compliqué, impossible. Des journalistes ont été filmés malgré eux devant des sites de lancement de roquettes, et après cela, ils ont cherché à enquêter pour savoir si le Hamas effectivement lançait des roquettes des zones civiles. Quand ils ont fait cette enquête, ils ont été expulsés de Gaza très peu de temps après.
Les journalistes expulsés, alors c'est vrai, ils étaient recherchés par le Hamas. Hélène Salon, c'est facile de travailler avec le Hamas, de discuter avec les brigades Qassam, de faire son travail?
Alors, pendant les périodes de combat, c'est ma confrère qui était sur place et on lui demandait beaucoup est-ce que tu pourrais interviewer des combattants, la direction politique, et elle nous disait impossible de voir un combattant, impossible de trouver un dirigeant politique. Tout le monde est caché, on ne voit rien. Et c'est ce que beaucoup de journalistes ont dit, c'est qu'ils n'avaient jamais croisé de combattants. Moi-même, quand j'étais en fin de sur les 15 derniers jours de la guerre à Gaza, nous n'avons pas vu de combattants. Lorsque j'ai couvert l'enterrement des trois hauts commandants de Rafah et du sud des brigades Ezzedine El-Kassam, tous les jeunes gens étaient en civil, personne n'était en habit de combattant, alors que c'était des dirigeants politiques du Hamas. Donc voilà, on n'avait pas accès en fait à ces dirigeants et à ces combattants.
Guillaume Oda, lorsqu'on veut voir un porte-parole du Hamas, il faut aller où ?
Alors, il y avait une possibilité d'aller voir des porte-parole du Hamas, c'était l'hôpital Shifa, l'hôpital central de Gaza, qui se trouve donc à l'intérieur de Gaza City, et où régulièrement des porte-parole du Hamas tenaient des conférences de presse. Ça a eu lieu, on voyait également des policiers, et donc là, pour le coup, en tenue des policiers donc du Hamas à l'intérieur de cet hôpital Shifa, qui était évidemment un hôpital où était également soigner forcément des victimes de cette guerre, qui offrait bien entendu un abri, une protection à des gens qui de toute façon étaient visés par les drones, par l'aviation israélienne. Mais pour revenir sur ce que disait Hélène Salon, elle a raison, et peut-être d'ailleurs pour nuancer les propos de Arnaud Klarsfeld, c'est pas qu'il est interdit de voir des combattants du Hamas, c'est qu'on est en période de guerre et que s'il a fallu attendre à peu près 40 jours, pour que des hauts cadres de la branche armée du Hamas soient visés et tués dans des raids aériens, vous imaginez bien que quand on est journaliste et qu'on ne dispose pas des moyens de renseignement dont dispose Israël, qu'on ne peut pas rencontrer aussi facilement que ça des combattants du Hamas qui se cachent, qui se terrent, qui étaient dans des tunnels. Moi, j'en ai vu une fois des combattants du Hamas. C'était après une campagne de bombardement massive dans un quartier qui s'appelle Shejaïa. Il y a eu un cessez-le-feu humanitaire d'à peine 2 heures, ce qui nous a permis d'aller voir l'ampleur des destructions. Et à ce moment-là...
Un quartier ravagé, Guillaume. Shejaïa, c'est un torrent de gravats, maintenant.
Mais en même temps, on voyait également des combattants du Hamas qui repliaient leurs armes et qui filaient. J'ai pris l'opportunité et j'ai saisi cette opportunité. Je les ai filmés et j'ai dit que c'était très rare, qu'on en voyait très rarement, mais qu'au moment où cette opportunité se présente, évidemment, on fait notre travail. Donc on n'a pas une interdiction absolue de filmer des combattants du Hamas, mais c'est extrêmement complexe en temps de guerre.
Alors Ludovic Piétenu, on a vu comment on travaille travaillez à Gaza avec le Hamas, comment vous travaillez avec l'armée israélienne? Ils donnent beaucoup d'informations, il y a
énormément
des contacts SMS, par mail, par
mail,
téléphone.
Ultra réguliers, ils envoient des extraits vidéo de leurs opérations effectuées parfois seulement quelques heures auparavant. C'est extrêmement réactif, extrêmement bien organisé. Le personnel qui s'occupe de la presse est extrêmement bienveillant, parle français, c'est extrêmement bien organisé.
France Culture, le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Avec nos invités Guillaume Audat, Hélène Salon, Ludovic Piétenu, Arnaud Clarsfeld, Taoufik Tahani et Isabelle Vera-Masson, historienne, sociologue des médias. Alors Isabelle Vera-Masson, quel rôle jouent les médias dans la perception du conflit israélo-palestinien? Vous vous appuyez sur des sondages.
Oui, évidemment, on a envie de savoir, et c'est au fondement de nos interrogations, quels sont les effets de ces images. Hein, et on a la possibilité de le trouver d'une certaine manière grâce aux sondages qui sont faits régulièrement. Il y en a beaucoup depuis des années. Et donc, j'ai regardé ce qui se passait en ce qui concerne l'opinion. Alors, on peut savoir l'opinion des Français sur ce conflit. On peut difficilement savoir le rôle des médias là-dedans. Mais on peut quand même voir que le résultat est assez étonnant. D'abord parce que malgré le nombre d'images, la présence de ces propos, eh bien, les Français se désengagent, s'intéressent de moins en moins à la question. Et on voit que 70% des Français en 2014 déclarent que leurs sympathies ne vont ni à un Israël, ni aux Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de prendre position. Ils les mettent chacun de leur côté. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont, d'une certaine manière, il n'y a pas d'effet? Si, il y a un effet sur l'opinion, puisqu'on s'aperçoit que la sympathie très profonde qu'il y avait à l'égard d'Israël dans les années 50, 60, s'est inversée. C'est-à-dire que si en 67, 68% des Français déclaraient avoir de la sympathie pour Israël, ils ne sont plus que 14% en 2014. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont de la sympathie pour les Palestiniens? Non. Ils ne déclarent pas avoir de la sympathie pour les Palestiniens. En revanche, ils sont tous, comme d'ailleurs la plupart des opinions, pour la favorable à un État, la création d'un État palestinien. Alors, est-ce que les médias, d'une certaine manière, ont joué un rôle négatif à l'égard d'Israël? Et les images, ça irait plutôt dans le sens de la critique à l'égard des médias, souvent portée par les Israéliens, par la communauté, enfin les représentants de la communauté juive. Moi, je crois qu'il faut voir quel est, enfin, un autre chiffre qui me paraît extraordinairement important, c'est à quel point l'existence d'Israël n'est plus remise en question. C'est-à-dire que quand on demande aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre la création de l'État d'Israël, la question ne se pose même pas. Et 1% des gens déclarent que non, que l'État d'Israël n'a pas de raison d'exister. Donc ça veut dire que la victoire est totale pour Israël, puisque évidemment dans les années 60, on s'en souvient, dans les années gauchistes, la question de l'État d'Israël se posait. Elle ne se pose plus. Donc à la fois une défaite dans l'opinion dans ce qui concerne Israël, puisque les Français n'ont plus de sympathie pour la cause israélienne, et en même temps une grande victoire, puisque d'une certaine manière on ne remet pas en question. Je voulais juste terminer par un chiffre qui me paraît extraordinairement important. C'est une enquête internationale qui a été faite par la BBC en juin 2013 sur la sympathie à l'égard d'Israël. Je tiens à signaler que les Français sont en Europe le peuple le plus favorable à l'État d'Israël. C'était intéressant dans cette dénonciation souvent de l'antisémitisme français. Je tiens à signaler que les Français sont beaucoup plus, mais beaucoup plus que les autres pays européens, favorables à Israël.
Bon, mais voilà une information par rapport aux manifestations qu'on a pu voir dans la rue. Je voudrais quand même un petit mot quand même sur l'importation du conflit en France, parce qu'on a vu des scènes très violentes, des drapeaux israéliens brûlés dans les rues de Paris. Là, on voit souvent des drapeaux israéliens à Gaza brûlés ou à Ramallah, bien sûr, mais rue de la Roquette ou place de la Bastille, c'est plus violent à l'image. Ça pose beaucoup de questions. Arnaud Clarsfeld, sur l'importation du conflit de Gaza en France.
D'abord, pour revenir sur votre remarque, il n'y a pas d'antisémitisme français. La France, au contraire... Non, mais vous avez dit sur l'antisémitisme français. La France est un pays très où les Juifs s'épanouissent totalement. C'est la première fois depuis la Révolution où les Juifs peuvent aller au poste qu'ils peuvent obtenir selon leurs mérites, selon leurs capacités. Donc la société est très ouverte aux Juifs. Mais il y a une partie de la jeunesse des banlieues, une partie de l'extrême gauche et le noyau dur de l'extrême droite qui est farouchement antisémite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur l'importation du conflit, il n'y a pas d'importation du conflit. Quand un jeune musulman qui va tuer des enfants juifs dans une école comme à Toulouse ou un autre qui va en Belgique pour tuer les premières personnes qu'il rencontre dans un musée juif, quand il y a des gens qui défilent avec des slogans victoire pour le Hamas ou vive le Hamas ou mort aux juifs, c'est pas une importation du conflit, c'est que il y a quelque chose déjà chez nous, pas simplement au Mali, mais chez nous, qui est une partie de la population, je dis une partie de la jeunesse des banlieues, qui eh bien, a des problèmes d'intégration et qui en veut aux juifs et qui en...
Taoufik Tani, vous voulez...
se surpasser, eh bien, se déchaîne sur Israël.
Taoufik Tani, vous voulez répondre, vous voulez intervenir?
Oui, absolument, si vous voulez. Il a raison, Klarsfeld, quand il dit que, de toute façon, il n'y a pas vraiment de l'antisémitisme ici en France. Il y a des actes condamnables que nous condamnons avec force. Les statistiques montrent d'ailleurs que, de toute façon, il y a beaucoup plus d'actes islamophobes et que les populations d'origine noire ou arabe sont beaucoup plus... écarté des jobs, comme on dit. Et sur la question de l'importation du conflit, si vous voulez, c'est juste avant justement cette période de Gaza, il y avait un sergent de l'armée israélienne qui était venu et qui a fait une conférence pour recruter des Français dans l'armée israélienne. Pas forcément des doubles nationaux, pas forcément d'ailleurs de confession juive, des Français qui ne sont ni juifs ni pour servir dans cette armée. C'est ce qu'on appelle l'importation du conflit. Parce que quand on exprime une solidarité, d'ailleurs de toute façon c'est pour ça que je réfute également ce que les médias utilisent comme terme quand ils nous traitent de pro-palestiniens. Ils ne sont pas pro-palestiniens. En tout cas, l'association France-Palestine Solidarité, nous sommes pro-droit. Donc quand on défend le droit, c'est une valeur de la République française.
Arnaud Klarsfeld.
Je ne dis pas que quelqu'un a raison et que quelqu'un a tort. Vraiment... Mais chacun a raison et chacun a tort. Et si j'étais né palestinien, mais sans doute, si j'étais né palestinien, je me dirais qu'il faut arriver à un compromis. Et ce compromis n'est pas encore malheureusement arrivé. Et le Hamas ne veut pas de l'existence d'un État d'Israël. Là non plus, pendant le conflit, je n'ai pas entendu de la part des médias rappeler la charte. Il a fallu que je le fasse à la télévision pour que de temps en temps cela fût rappelé. C'est-à-dire que les juifs doivent être, c'est ça la charte du Hamas. Les juifs doivent être tués. Les juifs sont responsables de toutes les guerres dans le monde. Mais c'est le document juridique qui est la base du Hamas. Donc, ça peut être rappelé dans le cadre d'un reportage de temps en temps. Ce n'est pas rappelé. Donc,
Arnaud, vous venez de le faire ce matin. Quel
accord peut-on arriver avec quelqu'un?
Je crois que l'aspect politique a été rappelé, il est connu, il est commenté, il est écrit, il est diffusé, enfin on connaît les positions des uns et des autres.
Que ce n'était pas rappelé souvent dans les médias. Voilà.
C'est peut-être pas rappelé au moment où vous voulez, mais ça, c'est pas quelque chose de caché, en tout cas, et jamais, ni à la radio, ni à la télé, ni dans la presse écrite. Le secret des sources sur France Culture à réécouter, podcaster, commenter sur franceculture.fr, avec le clin d'œil de Yacine Bouzard et les visions très personnelles de Yacine sur un autre conflit en France cette semaine.
Le livre de Madame Trierweiler aujourd'hui, c'est l'insoutenable légèreté de la politique. C'est sans importance.
Tirs de roquettes, reprise de bombardements. Qui a recommencé ce soir? Qui a rouvert les hostilités?
Elle décrit l'isolement de François Hollande, prisonnier de sa fonction.
François Hollande tient à sa popularité comme à une drogue dure.
Enfin, le coup de grâce politique.
En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les sans-dents.
Conséquence du coup sur les négociations, puisque pendant cette trêve, on discutait entre les différentes parties.
Valérie veut garder son activité professionnelle, je comprends.
Conséquence justement sur les négociations, parce que qu'est-ce qui était au cœur des pourparlers?
Alors, est-ce qu'elle parlera de Julie Gayet? Est-ce qu'elle parlera des circonstances dans lesquelles elle a rencontré François Hollande? L'hebdomadaire Paris Match parle d'un cri d'amour, d'une lente descente aux enfers. Est-ce que l'opinion
est ce soir prête à une nouvelle phase de combat violent, comme on y a assisté il y a 15 jours maintenant?
C'est sans importance. C'est sans importance. C'est sans importance. Et la bonne réaction serait de n'en pas parler, mais je sais que c'est impossible parce que tout le monde est en envie de bavarder, mais les vrais soucis sont ailleurs.
Voilà, merci pour ce moment clin d'œil de Yacine Bouzard. Alors, l'actualité à l'étranger, cette semaine en Allemagne, avec notre nouveau correspondant à Berlin, Cyril Sauvageau. Bonjour Cyril, tout va bien à Berlin ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Alors, de quoi on a parlé dans la presse en Allemagne cette semaine, de la guerre en Ukraine, avec un gros débat, je crois, entre éditorialistes sur la mer allemande, avec cette question, doit-elle se renforcer ?
Oui, avec une nouvelle guerre froide en Europe et un gouvernement qui vient d'accepter de livrer des armes en Irak, les Allemands s'interrogent. Faut-il s'armer davantage pour assumer un plus grand rôle dans les affaires du monde ? C'est un sujet sensible. L'histoire du XXe siècle a rendu les Allemands profondément méfiants vis-à-vis de toute forme d'intervention armée. D'ailleurs, un sondage du quotidien Die Welt montrait cette semaine que seuls 38% des Allemands approuvent la livraison d'armes aux Kurdes irakiens, une décision impopulaire qui est très sévèrement critiquée par la presse de gauche et notamment par le quotidien alternatif TADS. Mais à supposer que l'Allemagne veuille faire plus militairement, en a-t-elle seulement les moyens ? Selon une enquête de l'hebdomadaire Der Spiegel, la Bundeswehr, l'armée allemande, serait dans un état désastreux. Manque de moyens, manque de matériel, manque de recrues. Exemple, sur ses 109 avions de chasse Eurofighter, seuls 8 seraient complètement opérationnels. Hier encore, alors que l'OTAN était réunie pour évoquer la crise en Ukraine, le quotidien berlinois Tagesspiegel se demandait « Faut-il augmenter le budget de l'armée ?» Il n'est que de 1,3% du produit intérieur brut contre près de 2% en France et 4% aux États-Unis. La ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, aimerait plus de moyens, mais pour la presse allemande, Angela Merkel ne bougera pas. La chancelière a un objectif avant tout, et il n'est pas militaire, c'est de présenter un budget à l'équilibre en 2015.
Alors une journée de la Russie est prévue, Cyril, dans une ville allemande, et ce n'est pas du goût de tout le monde. Ça fait un peu désordre en ce moment, Cyril.
Et l'histoire est sortie cette semaine dans la presse régionale, relayée par plusieurs quotidiens comme le Berliner Zeitung. Faut-il maintenir le Russlandtag, une journée de la Russie prévue fin septembre à Rostock, dans le nord de l'Allemagne. Des chefs d'entreprise et des politiques russes et allemands ont prévu de s'y rendre pour encourager les échanges commerciaux entre la Russie et le land de Mecklembourg-Poméranie, avec un invité vedette, l'ex-chancelier Gerhard Schröder, ami personnel de Vladimir Poutine et président du consortium qui a construit le fameux gazoduc Nord Stream reliant l'Allemagne à la Russie par la Baltique. De quoi provoquer la colère des écologistes qui réclament l'annulation de ce Russlandtag. Mais la presse allemande, toujours très pragmatique, rappelle que 60 entreprises de la région dépendent directement de la Russie et que les échanges commerciaux se chiffrent à 600 millions d'euros. Dans les commentaires des lecteurs du Tagesspiegel, on peut lire cette remarque. Ne confondons pas Russlandtag et Poutine-tag. N'empêche, au moment où les relations diplomatiques sont plus tendues que jamais entre Moscou et Berlin, il semble que même les amis les plus fidèles de la Russie soient gênés aux entournures.
Merci Cyril Sauvageau. En direct de Berlin, le secret des sources touche à sa fin. Quel traitement médiatique de la guerre à Gaza ? Allez sur le site franceculture.fr pour commenter, réécouter, podcaster l'émission. Merci beaucoup à nos invités, un débat toujours vif et très intéressant. Hélène Salon, journaliste au Monde, grand reporter au Monde. Ludovic Piétenu, grand reporter en France Culture. Guillaume Oda, ancien correspondant d'ITélé à Jérusalem et aujourd'hui de retour à Paris. Arnaud Klarsfeld, merci. Taoufik Tahani, président de l'association France-Palestine Solidarité, merci à vous. Isabelle Véramasson, merci beaucoup. Thibaut Henton, à la semaine prochaine, Thibaut. Dans quelques minutes, le journal de Mathieu Laurent, réplique ensuite d'Alain Finkielkraut à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Charles Péguy. Eh bien, Alain Finkielkraut reçoit Pierre Manon et Paul Thibault pour parler de l'œuvre de Charles Péguy.
Évidemment, on fait notre travail, donc on n'a pas une interdiction absolue de filmer des combattants du Hamas, mais c'est extrêmement complexe en temps de guerre.
Le Hamas fait pression aussi sur les journalistes, donc c'est normal que les journalistes ne veuillent pas montrer les images, parce qu'ils savent que s'ils montrent les images, il leur arrivera des problèmes.
J'ai été frappé par la façon dont les grands médias, ils voulaient absolument affirmer une symétrie dans ce qui s'est passé. Mais la question de neutralité, elle est fausse ici, parce que où se sont passés ces crimes, c'est sur le territoire palestinien.